Silence du temps, silence des lieux, silence du cœur. En cette semaine où nous entrons dans le temps du carême, nous vous proposons cette conférence enregistrée à l'abbaye Notre-Dame de Belloca, Urth, le 18 août 2004, lors d'une récollection de la pastorale du tourisme et des loisirs. Silence du temps, silence des lieux, silence du cœur. Voici cette conférence de l'abbé Jean-Michel Poirier, prêtre du diocèse de Montauban.
Alors tout d'abord, il faut dire qu'il y a autant de silence que de qualité de présence. Ou on pourrait dire ça d'une autre manière, la qualité du silence révèle la qualité de la présence. Alors mettez un petit P ou un grand P à présence. Si je voulais reprendre le style du Coëlette, de l'Ecclésiaste, je pourrais dire qu'il est un silence qui nie la parole et un autre qui la nourrit. Qu'il est un silence qui refuse la communication, c'est le mutisme, et il en est un autre qui la prépare. Il est un silence du non-sens, et il en est un autre dans lequel le sens s'accomplit. Il est un silence qui suit des chocs reçus. Il en est d'autres qui naissent d'une joie intense. Il y a un silence plein, et il y a des silences vides. Il y a un silence que l'on recherche, il y a un silence que l'on fuit, cherchant à le combler à tout prix. Alors j'essaierai aujourd'hui de parler surtout de ce silence qui n'est pas le mutisme, le refus du dialogue ou la négation de la parole. Quoique, comme nous le verrons, ce silence-là peut aussi, en tout cas demande, être lui aussi écouté. Ma première approche sera une approche plutôt phénoménologique. Nous partirons donc d'une approche plutôt philosophique du silence pour dire tout d'abord que le silence apparaît fondamentalement comme l'autre de la parole. Il n'est pas une cessation de la parole, une négation de la parole, mais fondamentalement, il est l'autre de la parole qui permet à celle-ci d'exister. Sans silence, il n'y a pas de parole véritable, de parole qui fasse sens. Alors, de ce point de vue, on peut distinguer au moins trois types de silence. Donc, si on s'interroge sur le silence comme l'autre de la parole. Il est un premier silence qui précède la parole. Ce silence, c'est celui que doit faire celui qui va parler, le locuteur. Un silence qui dispose au discours pendant lequel celui qui va parler réfléchit. Il vaut mieux, n'est-ce pas ? Vous savez qu'il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, et je pense même que Jésus aurait dit 77 fois, 7 fois. Ce silence donc, nécessaire pour que celui qui parle puisse porter une parole qui ait vraiment du sens, et qui ne soit pas du verbiage ou du bavardage. Mais de ce côté-là du silence, il est aussi celui qui doit se faire chez la personne qui va recevoir la parole. Et dans ce cas-là, ce silence n'est autre que la disposition à l'écoute fondamentale. Et là, nous avons entendu dans la prière, cet extrait du Deutéronome, Moïse qui dit à tout Israël, « Fais silence, écoute !» Il ne peut pas y avoir d'écoute s'il n'y a pas de véritable silence de la part de celui qui écoute. Silence qui veut dire de faire taire toute la rumeur de nos pensées intérieures. Silence aussi du décentrement. Il faut, dans ce silence, se préparer à vraiment écouter celui qui parle. Or, écouter celui qui parle, nous le savons bien, n'est pas une attitude passive. Elle demande des efforts considérables. Là, pendant que je parle en ce moment, vous êtes à peu près en écoute parce que c'est le début. Mais il est fort possible, et je dirais même probable, que bien rapidement, vos pensées vont vagabonder. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas grave. Mais lorsque vous avez en face de vous une personne en détresse, lorsque vous allez rencontrer un malade, lorsque vous êtes dans une situation d'accompagnement spirituel, on sait que là, l'écoute est absolument indispensable pour que l'autre puisse parler. Et cette écoute exige véritablement un travail parfois forcené pour faire taire les réflexions intérieures, même celles suggérées par celui qui parle. Parce que celui qui parle peut dire quelque chose qui fait sens, et alors vous allez décrocher de l'écoute, nous allons décrocher de l'écoute, et nous n'allons plus suivre ce qu'il nous dit. Et parfois pire, nous allons l'interrompre pour donner le conseil ou notre opinion. Or, ce n'est pas le conseil ou l'opinion qu'il vient chercher, il vient chercher une écoute. Il y a donc un véritable silence intérieur qui est indispensable d'ailleurs pour que l'autre puisse proférer une parole. Et je pense que si aujourd'hui des lieux comme celui-ci, je pense aux abbayes mais bien d'autres lieux, sont des lieux recherchés, c'est parce que on recherche vraiment, et c'est de plus en plus rare, ces oasis de silence dans lesquelles on va enfin pouvoir dire ou se dire. Il y a aussi la voiture. Si vous avez fait comme moi l'expérience de choses qui se disent dans la voiture. Nouveau confessionnal. Sur roue. Voilà donc ce silence nécessaire, indispensable, donc pour qu'une parole puisse être dite, pour qu'une parole puisse être entendue. C'est aussi donc ce silence qui manifeste chez celui qui va parler que ce qu'il va dire vient de plus loin que lui ou vient du plus profond de lui. Ce n'est pas simplement une pensée qui traverse son esprit et qu'il va de suite jeter sur ses interlocuteurs. Et je pense que nous faisons tous la différence, notamment lorsque nous écoutons des homélies, entre celles qui sont pensées, et moi ça m'a beaucoup frappé, notamment dans des abbayes, de la qualité de la parole qui est portée. On sent que c'est une parole qui a été ruminée dans ces espaces de silence. Et puis donc, silence qui manifeste chez celui qui va écouter, qu'il est disposé à accueillir quelque chose qui lui vient d'ailleurs et qui va quelque part le déranger, c'est-à-dire l'amener ailleurs. C'est aussi ce silence que l'on fait avant que la première note de musique soit émise dans le cadre d'un concert, par exemple. Et on sait tous que la qualité de ce silence est indispensable pour que le musicien puisse vraiment... Enfin, je sais donc que pour des musiciens, c'est indispensable ce silence. Alors parfois, ils ne l'ont pas, ils ne le trouvent pas. Terrible que d'avoir à commencer à jouer devant des gens qui bavardent. Voilà un premier type de silence. Un second type de silence, c'est ce silence qui est indispensable pendant que la parole est proférée pour qu'elle puisse faire sens. Visuellement, ce silence, c'est les blancs qu'il y a entre les mots, ou même ce blanc sur lequel les lettres s'inscrivent. C'est ce silence qu'il y a entre les mots pour que ceci soit audible. C'est ce silence qu'en musique on note précisément par des silences, ou aussi des soupirs. C'est ce silence que marquent les signes de ponctuation. Si vous n'avez jamais lu le petit traité de la ponctuation, le traité de la ponctuation, tant que je me rappelle, de Jacques Drillon, qui est également critique musicale, je vous le conseille vivement. Jacques Drillon. Je crois que ça s'appelle le traité de la ponctuation française. Alors il y a une première partie qui est absolument fascinante, où il montre comment un texte qui est mal ponctué ne fait pas sens. Et combien, en revanche, un texte qui est bien ponctué, c'est-à-dire un texte qui sera bien lu, s'il doit être lu, fait soudain sens. Et là, il y a, j'en viendrai plus loin au point Patrick, en liturgie notamment. Donc l'on voit que la parole ne peut s'énoncer que, je dirais, en connivence avec ce silence-là, en altérité avec ce silence-là. Sans ce silence, il n'y a pas de discours audible, il n'y a pas de parole signifiante. Enfin, il est un troisième type de silence, ou une troisième qualité de silence, qui est celui dans lequel toute parole véritable s'accomplit. Plus la parole est dense, plus elle est forte, plus elle est vraie, et plus elle appelle un silence, à la fois pour raisonner, pour s'accomplir, et peut-être ce silence-là, c'est le rivage vers lequel elle porte le bateau, et puis comme la mer au moment de la marée basse, elle se retire. La parole, vous savez, dans la Bible, est quelque chose de fondamental, mais elle n'est pas tout. La parole est au service de la communion, plutôt elle est au service de la communication, et plus fondamentalement encore, au service de la communion. Et il vient un moment où la parole, ayant accompli son office, doit se retirer discrètement sur la pointe des pieds pour laisser la communion véritable s'accomplir dans ce silence qui, vous le voyez alors, est plein. Est plein. C'est ce silence de l'amour, ce silence de l'échange des regards, des mains qui se serrent, c'est ce silence de la communion dont nous savons qu'elle ne sera pleinement réalisée que dans le face-à-face avec le Seigneur. C'est ce silence que l'on souhaiterait avoir plus souvent dans les concerts avant que les applaudissements n'éclatent. Mais vous savez que là, il y a différents types de musique. Il y a celle qui termine de manière pétaradante et qui appelle les hurrahs, même si elle était fort mal interprétée. Et puis, vous avez ce silence. Par exemple, si vous connaissez la 9e de Gustav Mahler, qui se termine avec une musique qui plonge en quelque sorte dans le silence. Autre indication bibliographique, le livre magnifique de Vladimir Yankelevitch, le philosophe Yankelevitch, qui s'appelle La musique et l'ineffable, et dont je vous recommande particulièrement le dernier chapitre sur précisément la musique et le silence. Donc cette approche qui, je le reconnais, est assez sommaire, mais première approche du silence, donc avec ces trois type de silence et trois qualités de silence, celui qui précède la parole, celui qui est l'autre de la parole pendant même que la parole s'énonce, enfin celui qui, dans lequel la parole s'accomplit, celui qui succède au discours. Alors je vois au moins quatre domaines dans lesquels cette approche du silence peut nous intéresser ou nourrir notre réflexion, notre méditation, mais sans doute vous en trouverez bien d'autres. Premier domaine, c'est, cela ne vous étonnera pas de la part d'un exégète, c'est le rapport à la parole de Dieu. Que ce soit en particulier dans la liturgie ou dans la prière. Mais on pourrait aussi parler de l'étude, et finalement de tous les lieux où nous avons à écouter cette parole, où nous la rencontrons. On peut utiliser la parole de Dieu. D'ailleurs, on le fait depuis qu'elle existe. La détourner, s'en servir, et le texte devient alors un prétexte. On surfe sur elle. On part d'une parole pour pouvoir porter sa propre parole. Ou alors, d'autre manière, on a un développement. On veut montrer quelque chose et on va chercher des arguments dans la Bible, les fameux arguments scripturaires. Alors là, on tord les textes pour les ranger dans nos cases. Et je crois que c'est un des effets positifs de toute l'évolution du XXe siècle qui a été préparée dans les siècles précédents, d'un retour de cette écoute fondamentale de la parole qui n'est donc pas une utilisation, qui est même refus de l'utiliser. Et pour que cette parole soit entendue, il faut donc qu'il y ait du silence chez celui qui la reçoit. Alors dans la liturgie, ça va être ce silence avant que les textes de la parole de Dieu soient proclamés. Alors vous connaissez comme moi tous les moyens de refuser ce silence. Par exemple, les introductions, on vous fait un résumé de ce qui va être dit. Nous allons entendre une lecture de saint Paul qui dit aux Romains que, tac, 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 à la limite, on se demande pourquoi on a encore à lire puisqu'on vient d'avoir le résumé, avant même que la parole ait été énoncée. Ceci dit, il y a des introductions qui peuvent être légitimes, mais qui préparent à l'écoute, et non pas qui en dispensent. Il y a ce silence qui devrait être nécessaire dans la liturgie de la messe, après la prière de l'ouverture et avant que la parole soit prononcée. Généralement, d'ailleurs, c'est un silence qui est ménagé, ne serait-ce que par le déplacement du lecteur. Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que ce silence se prolonge. Il n'est pas nécessaire. Il faut distinguer, n'est-ce pas, la durée de la qualité. Mais on voit bien qu'il y ait un silence indispensable pour que la prière, pour que la parole puisse résonner. Alors c'est vrai dans la liturgie, mais c'est vrai, bien entendu, dans la prière. Et quelle que soit l'école spirituelle, quelle que soit la sensibilité, je ne vois pas comment il peut y avoir de prière chrétienne ou d'oraison chrétienne sans qu'il y ait, comme préalable, cet effort pour un silence intérieur qui va précéder l'écoute véritable de la parole. Et les grandes écoles spirituelles ont toujours mis l'accent sur cette écoute qui se prépare dans le silence. Faire taire, se décentrer de soi-même pour se disposer à accueillir une parole qui vient d'ailleurs. La prière chrétienne est fondamentalement une écoute de la parole, encore une fois, quelle que soit votre sensibilité spirituelle ou l'école spirituelle. En tout cas, les grandes écoles spirituelles se reconnaissent à cela. Et puis, c'est un silence aussi, je dirais, qui est indispensable pour celui qui étudie aussi. Ce silence, il est aussi nécessaire pendant l'énonciation de la parole, notamment lors de sa proclamation dans la liturgie. Il faut laisser la parole respirer. Alors ça suppose aussi un entraînement, parce que parfois il y a un peu de panique chez le lecteur, n'est-ce pas? Alors il se jette sur le texte et il le déroule à une vitesse fantastique, tellement il a hâte d'arriver au bout et d'enfin pouvoir regagner sa chaise. Alors bon, ça peut être la panique, etc., mais on voit bien qu'un petit peu de pratique nous aide à pouvoir énoncer la parole en respectant encore une fois cette ponctuation, respecter son rythme. Et de ce point de vue-là, je peux vous dire, pour y avoir participé, que ceux qui traduisent la Bible pour la liturgie, pour la proclamation, en tout cas la proclamation orale, font très très attention à cela. C'est-à-dire que lorsque nous traduisons, nous écoutons ce qui a été traduit, ou la proposition de traduction qui est faite. Nous l'écoutons pour voir si c'est audible. Et là, pour l'avoir maintes fois pratiqué dans des paroisses ou ailleurs, je crois que vraiment ces formations que l'on peut faire à la proclamation de la parole sont vraiment indispensables. Et peut-être vous avez eu l'occasion d'entendre, d'écouter, je me rappelle avoir été frappé tout jeune homme à la cathédrale Notre-Dame de Paris dans une célébration œcuménique par la lecture du Magnificat, alors je crois que c'était Gisèle Casatsu, enfin c'est Casatsu, ça je suis sûr, c'était une comédienne, de la grande famille des Casatsu, et qui a lu le Magnificat de manière si étonnante qu'il me semblait que c'était vraiment la première fois que je l'écoutais, que je l'entendais. Et si nos paroles pouvaient être proclamées toujours avec cette qualité-là, alors il y a certes de l'exercice, hein, parce qu'il y a un métier là-dedans, hein, mais enfin tout le monde peut s'y exercer. Et puis il y a aussi cette préparation intérieure, en essayant quand même de ne pas trop surcharger non plus. J'ai entendu récemment quelqu'un qui surchargeait tellement de sens une parole que du coup on entendait plus son interprétation à lui que la parole elle-même. Mais vous savez, en musique, c'est la même chose. Il y a des interprétations. La musique demande à être interprétée, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu, on pourrait dire, lorsqu'on la proclame, eh ben, c'est un petit peu comme quelqu'un qui jouerait du violoncelle, n'est-ce pas? Des suites de Bach sur un violoncelle. Alors il y a, voyez, la juste mesure, mais qui n'est pas facile à trouver, hein, entre ce que l'on apporte soi, l'investissement qu'il y a dedans, qui est indispensable pour montrer que cette parole nous traverse, et en même temps ne pas la surcharger de notre interprétation. Voilà, il y a un équilibre pas facile à trouver. C'est le silence, enfin, du recueillement, au sens étymologique du terme. Ce silence du recueillement, il y a ce silence où on va recueillir cette parole qui nous vient d'ailleurs. Ce silence qui correspond au déploiement, si vous voulez, des mains. Et là, il est vrai aussi que dans la prière, nous sommes un corps, n'est-ce pas? Et je crois que le corps doit participer à cette préparation de l'accueil de la parole. On peut trouver des gestes, on peut trouver des attitudes qui vont nous préparer à écouter la parole profondément. Voilà. Alors un autre domaine, c'est un silence qui peut être traduit dans les espaces. D'ailleurs, on avait donné comme titre le silence du temps, silence des lieux, silence du cœur. Donc là, je parle plutôt du silence des lieux ou silence des espaces. De la même manière que nos discours peuvent être encombrés de verbiage, de mots qui ne font pas sens, de mots qui remplissent. Vous savez, il faut remplir. Il faut remplir l'espace. Et bien, de la même manière, il y a des églises ou des lieux qui sont encombrés par des chaises, par toutes sortes de choses, et qui ne sont pas accueillants. Il en est d'autres, en revanche, où l'on perçoit d'emblée qu'il y a un accueil véritable qui est ménagé précisément par des espaces. Où l'on puisse se sentir accueilli. Moi, enfin, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, lorsque j'ai trop de choses devant moi, lorsqu'on vous dit, lorsque tout est fléché, que vous n'avez même plus la place, un espace de liberté, je me sens mal à l'aise. Je dirais que ce silence-là, c'est tout d'abord le silence du narthex. Alors, j'avoue que, étant dans l'équipe pastorale de Moissac, nous avons un fort beau narthex. Je trouve que ces lieux-là sont beaux. Alors, ça peut avoir différentes formes, les narthex. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être un espace à l'intérieur. Mais je crois que cette espèce de sas, hein, entre le monde extérieur et puis ce monde autre, et qui est à la fois, tout à la fois un autre, et qui nous est le plus profond à nous-mêmes que nous-mêmes, cet espace est important. Et justement, c'est un espace qui doit être, qui doit refléter, si vous voulez, cette espèce de silence. Et en même temps, c'est peut être aussi, quelque part, un accueil, comment dire, de l'éclatement du sens. Je pense en particulier aux vitraux qui ont été faits à l'abbaye de... Alors, c'est à côté de Dijon. C'est cistercien. Il y a une partie romane, le nom m'échappe à l'instant. Non, Pierre Soulage est à Conques. Non, c'était, non, ce sont des vitraux faits par... ouais. Comment ? Ah non, c'est pas Tournu. Non, c'est beaucoup plus près de Dijon. C'est... Non, c'est pas Fontenay non plus. Non, c'est une abbaye actuelle où il y a des cisterciens. Non, c'est pas Citeaux, non. C'est à l'est de Dijon. Quand on remonte, ça... c'est pas très loin de Dôle. Tout à l'heure, le nom nous reviendra. Et le père abbé nous expliquait donc qu'il y avait des vitraux du 19e, un petit croisillon, et qui tombait, alors croisillon vert et je ne sais pas quelle autre couleur, et il tombait petit à petit. Et donc il fallait les restaurer. Donc ils avaient le choix entre trois possibilités, soit tenter de faire quelque chose qui pouvait ressembler à ce que c'était à l'origine, mais sur quelle base, soit restaurer les vitraux du 19e, soit faire carrément une création contemporaine. Donc c'est la troisième option qui a été choisie. Et le maître Verrier, qui est d'ailleurs de cette région, alors bien sûr les monuments historiques sont intervenus parce que c'était un monument historique, et il a conçu quelque chose dans les... D'abord, c'est non figuratif, puisque c'est dans un cadre cistercien, avec des tons qui vont du blanc laiteux jusqu'au gris, en passant par des tons de bleu. Et alors, il a fait des vitraux. Lorsqu'on arrive, il y a des vitraux très éclatés, avec beaucoup de... On ne sait pas trop où regarder. Hein. Et puis, au fur et à mesure qu'on progresse, il y a une espèce de simplification jusqu'à trois vitraux qui sont dans le cœur et qui sont d'une admirable simplicité. Et ce que le maître Verrier a voulu traduire, c'est la démarche spirituelle qui est proposée à l'homme contemporain qui arrive éclaté avec toutes sortes de sollicitations, qui ne sait plus trop où il en est. Et là, il a voulu refléter ce qui lui semblait être le cœur de cette démarche spirituelle qui est proposée là, mais comme je dirais dans toute église, hein, et tout lieu spirituel, toute communauté, qui est un lieu vers une simplicité, mais une simplicité savante, si vous voulez, hein, qui n'est pas du simplisme, hein, ou une simplification abusive, hein, mais au fur et à mesure que l'on s'approche de l'être, on s'approche de Dieu, de la source, de l'amour, de la lumière, et bien petit à petit les choses se mettent en place, et l'être se retrouve apaisé. Voilà. Il aurait voulu traduire cela, voyez, dans les vitraux. Donc ce que je voulais simplement dire, c'est que voyez, le narthex, ça peut être aussi un lieu où il y a des échos de cet éclatement. Mais enfin, c'est un lieu où une démarche, voilà, il faut inviter à la démarche. L'essentiel, c'est de démarrer. Et c'est fondamental, le démarrage. Alors, je crois aussi qu'ensuite, il faut laisser des espaces pour la déambulation. Et on pourrait rêver, là aussi, de cheminements qui soient signifiants. Penser à un cheminement possible. Mais je crois que l'essentiel, ce sont des espaces qui soient ouverts. Ouverts. On ne cherche pas, nous ne sommes pas dans une secte. On ne cherche pas, malgré la parabole évangélique, à attraper, n'est-ce pas, les hommes dans un piège ou dans un filet. Non, je dis malgré la parabole évangélique parce qu'il y a l'image du filet, mais justement, il ne faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Hein. Parce que Pierre, là, Jésus dit à Pierre, désormais ce sont des hommes. On n'est pas là, n'est-ce pas, dans une secte où on cherche absolument à convaincre les gens et à les étirer chez nous et à faire qu'ils soient nôtres, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il faut des espaces qui respirent une liberté, qui soient une proposition. Hein. Proposer la foi aujourd'hui. Proposer. Troisième domaine dans lequel cette réflexion sur le silence peut trouver un écho, c'est dans la vie spirituelle. Et là, je voudrais parler à partir des exercices spirituels de Saint Ignace, qu'on me pardonne, dans ce lieu bénédictin, de faire appel à Saint Ignace, mais après tout, Saint Ignace était de Loyola. Je voudrais évoquer ici la neuvième règle de discernement des exercices spirituels de la première semaine, dans lequel Saint Ignace propose trois raisons, trois causes principales à ce qu'il appelle la désolation dans le cadre de l'oraison. C'est-à-dire la désolation, c'est lorsqu'on se sent, ce qui nous semble que, n'est-ce pas, dans l'oraison, nous ne ressentons rien, nous n'éprouvons pas cette joie que l'on vient chercher, on ne ressent pas cette paix intérieure. Il y a une espèce de désolation qui se passe pendant la prière dans l'oraison. Alors ce que dit Saint Ignace à propos de la désolation dans l'oraison vaut bien entendu pour cette désolation qui peut être la nôtre dans notre cheminement spirituel ou dans notre vie spirituelle tout simplement. Donc trois raisons, trois causes plutôt. La première, dit-il, c'est que nous sommes tièdes, paresseux ou négligents dans nos exercices spirituels. Ainsi c'est à cause de nos fautes que la consolation spirituelle s'éloigne de nous. Donc si on ne ressent rien, si vous voulez, s'il n'y a pas, si sur la ligne avec Dieu, n'est-ce pas, nous n'entendons rien, c'est peut-être tout simplement que nous ne sommes pas à l'écoute, que nous ne nous sommes pas mis dans les dispositions nécessaires pour écouter. C'est pas que Dieu ne parle pas, c'est qu'en fait, on ne dirige pas l'oreille du bon côté. Donc, il faut reprendre les choses et là, s'appuyer sur des traditions. Et là, je crois que dans l'Église, l'Église est riche de traditions spirituelles, encore une fois, qui nous préparent à l'écoute et qui nous disent comment nous disposer à la véritable écoute. Après tout, la règle de Saint Benoît commence par écoute. La deuxième cause, écrit Saint Ignace, c'est pour nous faire éprouver ce que nous valons et jusqu'où nous allons dans son service et sa louange, sans un tel salaire de consolation et de grande grâce. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le silence, mais le silence que nous percevons de manière douloureuse, parce que c'est Dieu qui ne parle plus alors que nous voudrions qu'il se manifeste à nous, eh bien ça peut venir tout simplement d'une espèce de pédagogie qui nous apprend à sortir de cette relation liée à la rétribution, n'est-ce pas ? Je fais des choses pour Dieu et il me redonne ceci, n'est-ce pas ? Nous sommes dans une relation à ce moment-là de type commercial. Je vais, je donne, voire je paye, et j'attends des choses en retour, n'est-ce pas ? Comme m'avait dit une dame lorsque j'étais curé d'une paroisse de Montauban, n'est-ce pas ? Et elle voulait absolument une chorale. Alors j'avais essayé d'expliquer que pour même monter une chorale digne de ce nom, il fallait quand même avoir des gens qui soient, surtout un chef de chœur, n'est-ce pas ? Et que pour l'instant, nous n'en avons pas. Elle m'a dit, mais après tout, je paye le denier de l'Église, j'y ai droit. Je lui ai dit, madame, allez payer ailleurs. Voilà. Et de fait, je ne l'ai plus jamais vu. Mais rassurez-vous, le denier de l'Église n'a pas baissé pendant que j'étais curé, au contraire. Bien, alors donc, revenons à Saint Ignace. Donc il s'agit là de sortir, voyez, de ce type de relation commerciale que l'on peut avoir même avec Dieu. Vous savez, dans la vie spirituelle, c'est terrible. J'ai tant donné, et voici ce qui m'arrive. Et donc, à un moment, Dieu, ça, toute l'expérience d'Israël aussi, cette expérience de l'absence de Dieu, qui est un silence à ce moment-là, qui est le silence, voyez-vous, de l'absence. Eh bien, ce silence de l'absence, Saint Ignace nous invite à le vivre comme le silence de l'attente, ou à le transformer en silence de l'attente. Et c'est justement la troisième cause, et nous y arrivons, la troisième cause donc principale pour laquelle nous nous trouvons désolés, dit Saint Ignace, c'est pour nous donner véritable savoir et connaissance, en sorte que nous le sentions intérieurement, de ce qu'il ne dépend pas de nous de faire naître ou de conserver une grande dévotion, un amour intense, des larmes, ni aucune autre consolation spirituelle, mais que tout est don et grâce de Dieu notre Seigneur. Et aussi pour que nous ne fassions pas notre nid chez autrui, exaltant notre esprit en un orgueil ou une vaine gloire qui nous attribue à nous-mêmes la dévotion ou les autres formes de consolation spirituelle. Tout est don et grâce de Dieu, notre Seigneur. Et là, je trouve un écho parfait de cela, ou plutôt Saint Ignace se fait un écho du livre de Coëlette. Il me semble que Coëlette n'est pas du tout quelqu'un de complètement désabusé, mais justement qui lutte contre cette conception d'une sagesse où la joie, notamment, serait, n'est-ce pas, un salaire que mériterait l'ouvrier qui travaille, n'est-ce pas, celui qui s'adonne à la sagesse. Coëlette dit, ben, celui qui s'adonne à la sagesse, il peut très bien connaître le sort du méchant. Et inversement, l'impie peut très bien connaître le sort du... Enfin, il y a des sages aussi qui connaissent le sort du sage. Enfin, il y a de tout. Mais enfin, apparemment, il n'y a pas de rapport. Et finalement, ce que dit Coëlette, je résume bien sûr, c'est une pensée bien plus complexe que ce que je vais dire là. Mais en gros, il dit deux choses. La première, c'est qu'il faut être sage, non pas pour connaître la joie, mais parce que c'est notre labeur, c'est notre tâche, c'est la tâche qui nous a été fixée. Donc c'est une très belle morale. On n'est pas sage par intérêt, on est sage parce que c'est la tâche que Dieu nous a fixée. Nous avons à être croyants, non pas pour ce que ça nous apporte, mais parce que c'est un appel qui nous a été lancé. Nous avons été attirés par le Père vers le Fils. Eh bien voilà, c'est une mission qui nous est confiée. À tout appel correspond une mission. Chaque fois que je célèbre un baptême, j'en ai célébré un samedi à Sauveterre de Béarn, et je l'ai rappelé, le baptême c'est fondamentalement prendre conscience qu'il y a un appel, et que nous avons à y répondre, et que nous avons à nous engager. Voilà. Et la deuxième chose que dit Coëlette, c'est qu'il y a de la joie. Partout, partout, les hirondelles. Il y a de la joie sur le chemin, Mais cette joie, elle est vraiment un don et une grâce. Elle n'est pas nécessaire, pas du tout, enfin pas nécessairement en rapport avec ce que l'on fait ou ce que l'on pratique. Et ce que nous dit Colette, c'est que lorsque cette joie nous est donnée, eh bien nous avons à l'accueillir comme un don du Seigneur et à la goûter. Alors vous voyez que là, on a deux silences qui se rejoignent en quelque sorte. Nous avons ce silence que l'on peut éprouver effectivement où on ne ressent rien. Ce silence où nous éprouvons, je dirais, surtout l'absence du Seigneur et qui, je dirais, mais par pur don, par pure grâce, se trouve transformé en ce silence qui naît d'une joie intense et d'une paix retrouvée. Quatrième et dernier domaine dans lequel on peut trouver des prolongements de cette approche phénoménologique du silence, c'est le silence, je dirais, dans le temps liturgique. On a parlé des temps. Alors, silence dans le temps en général et en particulier dans les temps liturgiques. Je note chez certains une tendance à vouloir, notamment dans la liturgie, tout solenniser. J'ai vu notamment dans certains séminaires, que je ne citerai pas pour ne pas aller plus loin, une tendance à solenniser la moindre des messes quotidiennes. Alors je me disais, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'on va arriver aux grandes fêtes? Il y a, voyez-vous, un silence plein. Je veux dire, on peut avoir des très belles célébrations, très intenses, très fortes, dans un certain dépouillement. Même dans les messes basses, vous pouvez très bien, dites basses, c'est-à-dire les messes non chantées, n'est-ce pas? On peut très bien avoir ces choses, enfin quelque chose d'extrêmement fort spirituellement. Et on voit bien à l'inverse cette espèce de débauche, n'est-ce pas? De débauche, alors à tous les niveaux. Débauche de chant, débauche de vêtements, débauche de fleurs, débauche de machin. Enfin, vous êtes parfois dans des espèces de lieux où ça sort de partout. Enfin, ça, bon, c'est du Jean-Michel Jarre adapté à la liturgie, vous voyez. Et c'est... Là, on est loin du silence. Et là, il faudrait revenir sans cesse et toujours, évidemment, à ce texte dont vous attendiez bien sûr que je le cite et que je ne peux que vous inviter à méditer à nouveau dans le prolongement de cette journée ou pendant cette journée, qui est la rencontre d'Élie avec le Seigneur au mont Horeb. C'est au chapitre 19 du premier livre des Rois. Donc Élie se leva après que l'ange lui ait donné la nourriture pour continuer le chemin. Il mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Il arriva là, à la caverne, et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Je suis passionné pour le Seigneur, le Dieu des puissances. » Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et l'on cherche à m'enlever la vie. Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, voici le Seigneur va passer. Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Voilà ce souffle ténu. Et c'est là que le Seigneur manifeste sa présence. Donc il faudrait, voyez, que quelle que soit la forme, il faudrait que nous puissions offrir véritablement ces expériences là à une personne qui, je dirais, non-croyante, mal-croyante, ou en tout cas ayant pris du large par rapport à toute vie spirituelle ou par rapport à une vie de foi ou une vie engagé puisse entendre ce silence-là dans nos liturgies, puisse entendre ce silence-là en rentrant tout simplement dans nos églises pour visiter et puisse entendre une parole. Voilà. Mais d'abord ce souffle qui prépare à l'écoute de la parole et aussi ce silence dans lequel la parole véritable s'accomplit. Voilà, c'était une première approche. Je crois que j'ai le temps ce matin de vous en proposer une seconde et j'en réserverai la troisième pour l'après-midi. Cette seconde approche du silence, vous allez voir que nous allons recroiser des chemins que nous avons empruntés jusqu'ici, sera cette fois-ci à partir d'un texte de la Bible qui est le premier texte du livre de la Genèse. Donc Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 2 verset 4. Alors je ne vais pas reprendre l'ensemble de ce texte que vous connaissez par cœur bien sûr, mais je voudrais juste prendre quelques points en lien avec le thème de cette journée, le thème du silence. Tout d'abord pour dire que vous savez que ce texte est il y a plusieurs structures, hein, plusieurs indices de structure, il est même remarquablement structuré, avec une structure extrêmement savante. Mais l'un des indices de structure de ce texte, ce qui permet donc de le structurer, ce sont les 10 paroles prononcées par Dieu. Il y a 10 paroles. Déca, log, 10 paroles. Alors, la première parole intervient au verset 3. Mais avant le verset 3, il y a les versets 1 et 2. Et peut-être nous faut-il d'abord écouter ces deux premiers versets qui précèdent donc l'irruption, parce que nous allons voir qu'il s'agit d'une irruption de la parole divine. Alors, on pourrait traduire le verset 1 de la manière suivante. Primordialement, Dieu créa cieux et terre. Verset 2. La terre était alors tohu, bohu. Elle était la ténèbre sur la face des eaux et un vent de Dieu tournoyant sur la face des eaux. Nous avons là une évocation de ce qu'on appelle le chaos. Le chaos. Alors qu'est-ce que c'est que ce chaos? C'est un milieu inhospitalier pour la vie humaine qui peut évoquer pour un Israélite différents types de paysages. Deux grands paysages. Le premier, c'est celui du désert, dans lequel, sauf s'il est nomade, qu'il connaît bien le désert, l'homme ne peut vivre du moins un certain temps, il peut se bâtir une vie. Cette terre aride, déserte et vide, comme traduit par exemple la Tobe pour le Tohu-Bohu. Et puis un autre paysage, c'est la mer. Alors, nos braves Israélites n'étaient pas des peuples de la mer. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, généralement, lorsque un Israélite, enfin, ou un homme de la Bible, met le pied sur un bateau, ça se passe mal. Il y a des tempêtes qui se déclenchent. Parfois, on est versé à l'eau, ou alors on manque d'y être. On voit bien que ce ne sont pas ni des pêcheurs, ni des marins. Même nos braves pêcheurs du lac de Tibériade, qui eux connaissent quand même la technique de la pêche, ils se laissent prendre. Ils se laissent prendre dans des tempêtes et ils paniquent. Donc il y a deux milieux qui sont... Bon. Mais ils existent ces milieux. Ils existent. Mais là, il y a quelque chose qui... Il y a une image qui nous est donnée que je trouve très forte, c'est celle de ce vent de Dieu qui tournoie sur la face des eaux. Et l'image ici est très concrète, c'est l'image de ces espèces de tornades, n'est-ce pas, avec un mouvement circulaire, qui agite la surface des eaux. Je pense notamment à des tableaux de Turner, je ne sais pas si vous voyez ce peintre, hein, avec ses, ou d'autres hein, de cette époque-là, avec cet océan, vous voyez, avec, j'imagine qu'on peut le voir depuis Biarritz, avec un ciel noir, et puis des grandes vagues, là, enfin, on a l'impression vraiment que c'est la fin du monde, hein, la lumière qui est là, mais cachée, et puis, bon, voilà. Et il y a cette espèce de tournoiement. Alors, je voudrais rapprocher de ce texte-là un autre texte, qui est un texte qui se trouve là aussi dans le premier livre des Rois, au chapitre 3. C'est le fameux texte du jugement de Salomon. Du jugement de Salomon. Vous connaissez l'histoire. Il y a deux femmes qui ont eu chacun un enfant, d'ailleurs sans homme. Enfin, sans homme. Il n'y avait pas d'homme dans la maison. Alors bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte. Et puis, il y a un des deux gamins qui meurt apparemment étouffé par l'une des femmes. Et chacune dit, eh bien, c'est l'autre qui a étouffé son enfant, puis elle m'a piqué le mien. Bon, enfin, du moins, il y en a une qui dit ça, et puis l'autre dit, mais non, 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 c'est elle. Bon. Alors, elles ont un discours qui se répond parfaitement. Donc il y a l'une qui raconte l'histoire, le jour venu je regardais attentivement, mais ce n'était pas mon fils, celui dont j'avais accouché. L'autre femme dit, non, mon fils c'est le vivant et ton fils c'est le mort. Mais la première continue à dire, non, ton fils c'est le mort et mon fils c'est le vivant. Et là on a deux discours qui sont en parfaite, qui se répondent l'un l'autre. Et ça pourrait tourner comme ça. Alors comment discerner la vérité? Vous avez deux femmes qui vous tiennent chacune un discours très plausible, et qui finalement finissent chacune par dire la même chose. Non, mon fils c'est le vivant, et ton fils c'est le mort, et d'autres, l'autre, non, ton fils c'est le mort, et mon fils c'est le vivant. Voilà. Et des discours, à peu près, vous voyez, en miroir, les deux discours en miroir, et ça tournoie. Et ça peut tournoyer longtemps comme ça. Et pensez à toutes nos discussions que nous avons avec des arguments, n'est-ce pas, qui se valent, et hop, et ça va, et les disputes dans les couples ou dans les familles. Et c'est toi qui as commencé, mais oui, mais lui, il a fait ça, etc. Et hop, et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et on dérape, hein, et on n'avance pas. Hein, parce qu'on ne tourne pas contre le sol, là. Et ça tourne, comme dans le chaos initial. Et de la même manière, dans les deux textes, il y a une parole qui va venir trancher ce mouvement qui pourrait sinon être un tournoiement perpétuel. Alors Dieu dit que lumière soit. Et lumière fut. Et lorsqu'on le lit en hébreu, hein, on a au verset 2 des formes verbales en hébreu qui sont des formes justement de, qui indiquent quelque chose de permanent ou quelque chose d'itératif, hein, qui se répète avec des participes ou une forme verbale avec le verbe être. Bien, ça pourrait, au verset 2. Et tout d'un coup, là, on a l'irruption de la première forme verbale, qui est la forme verbale du récit que l'on traduit en français par le passé simple. Alors, Dieu dit, et là, il y a vraiment une irruption. On sort du tournoiement et il y a la parole qui, tout d'un coup, va venir casser ce tournoiement, plutôt trancher, et faire surgir la vie. Et la vie va démarrer à partir de là. Alors, Dieu dit, que lumière soit. Alors, Salomon dit, prenez l'enfant, coupez-le. Parole tranchante. Coupez-le en deux. Et donnez-en la moitié à chaque femme. Et c'est la parole, cette parole-là de Salomon qui va faire surgir la vérité. Parce que la véritable mère va dire non. Pas ça. Donnez-le à l'autre femme. Et elle se révèle ainsi comme étant la véritable mère. Et du coup, d'ailleurs, c'est la première fois que le mot de mère va apparaître dans le texte. Elle va même advenir comme mère, si vous voulez. La parole de Salomon ne va pas simplement faire advenir une vérité qui était déjà là, mais faisant advenir la vérité, il va permettre à cette femme de devenir enfin mère. Et la parole de Dieu ne va pas simplement dissiper le chaos, mais faire surgir du neuf. Et là, je trouve qu'on a quelque chose d'intéressant par rapport à notre problématique du silence. Parce que on voit bien ici qu'il y a un premier silence, si vous voulez, qui ce silence chaotique ou ce silence du chaos, qui peut être le silence terrible d'une maison dans laquelle une radio ou une télévision jette à flot continu des paroles et des sons. On peut très bien se trouver dans un silence absolu, enfin silence de non-sens, hein, alors même qu'on est environné de paroles. Mais aucune de ces paroles ne fait sens. Elles se renvoient, n'est-ce pas, on pourrait, comme parfois, lorsqu'on est un petit peu fatigué, n'est-ce pas, qu'on allume la télévision, et voilà, on est là, comme fasciné, n'est-ce pas, devant cette espèce de lucarne, et on pourrait continuer, parfois on se laisse prendre, hein. On se laisse prendre. C'est pour ça que moi j'ai fini par ne plus avoir la télévision chez moi, parce que j'avais tendance à rentrer parfois le soir, n'est-ce pas, on allume la télé, Et puis on est là obnubilé, et ça pourrait continuer pendant des heures comme ça, et on se laisse prendre. Hein. Ou alors les jeunes devant Internet ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, bon. On peut se laisser prendre par cette espèce de flot, n'est-ce pas ? Ces flots de paroles qui sont jetées dans tous les sens et qui tournent sur elles-mêmes. Alors ça, c'est un silence chaotique, si vous voulez, c'est l'approche négative du silence. Et à ce moment-là, on voit que la véritable parole, la parole vraie, cette parole qui, elle, surgit d'un autre type de silence, d'un silence profond, va venir trancher dans ce fatras de paroles, va venir faire émerger quelque chose. Et après, d'ailleurs, que Dieu ait dit que lumière soit, il va se taire pendant quelque temps, jusqu'à la seconde parole. C'est-à-dire jusqu'au second jour, puisqu'il n'y a qu'une parole le premier jour. Et entre ces paroles de Dieu, ce sont des paroles pleines, puisqu'elles font advenir ce qu'elles disent. Elles sont prolongées en quelque sorte dans un silence qui les met en œuvre. Et la vie jaillit. Et on voit bien comment une parole vraie fait jaillir la vie. C'était Madeleine Delbrel qui disait que la personne qui, à la messe du matin, a arraché une seule phrase d'évangile, mais qui cherche vraiment à la vivre pendant sa journée, en sait bien plus sur l'évangile que quelqu'un qui aurait écrit des volumes et des volumes sur cet évangile, mais qui n'aurait jamais fait la parole vitale, sa parole de vie. Parce qu'on peut aussi faire du bavardage, bien entendu, avec la parole de Dieu. Mais il est une autre approche de ce silence, et c'est là où j'en venais tout à l'heure à cette idée que, quand je vous disais en début, il y a un mutisme qui doit être écouté aussi. Le père Martelet, Gustave Martelet, je me rappelle dans un congrès national des vocations, il y a un certain donné de ça à Lourdes, nous avait jeté quelque chose. Il disait quand l'Esprit Saint voit le chaos, il se réjouit parce qu'il se dit « Ah, il y a du travail !» Alors c'est une manière évidemment plus positive cette fois-ci d'envisager le chaos, c'est-à-dire que ce chaos, vous voyez, qui peut être une abondance de paroles ou une abondance, enfin une espèce de fatras, eh bien c'est quelque chose qui doit être écouté lui aussi, pour qu'une parole vraie puisse, et je pense là au témoignage d'un de mes confrères prêtres qui est exorciste pour le diocèse de Montauban, et qui accueille beaucoup de personnes qui arrivent avec... Ça part dans tous les sens. Hein. Et je crois que la qualité de son écoute fait que s'il prononce... Enfin, il y a peut-être une parole qui est à la fin. Enfin, évidemment, il va y avoir la parole de Dieu. Il faut d'abord que cette parole de Dieu qui va être prononcée, qui va donner un peu de silence ou un peu de paix, il faut d'abord qu'elle ait été précédée de l'écoute hein, de ces paroles-là qui ont besoin de sortir, hein, même si elles n'ont aucun sens. Donc, ce qui veut dire que face au chaos... Ne nous pressons pas trop vite d'asséner, n'est-ce pas, la parole. Salomon, avant de dire la parole libératrice, il a d'abord écouté les deux femmes. Il a d'abord écouté ses discours en miroir. Donc c'est une autre manière, vous voyez, de regarder ce chaos-là. Et puis là, je passe tout de suite maintenant à l'autre bout du texte. C'est le septième jour. Quand est-ce que la création s'achève? Ben là... Il y a eu, figurez-vous, même dans les temps anciens, et il y a même des problèmes textuels par rapport à un verset, on a été tenté de dire que Dieu acheva le sixième jour l'œuvre qu'il avait faite. Et le septième jour, il se reposa. Or, ce n'est pas du tout ce que nous dit le texte. Il dit que Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. C'est-à-dire que la création n'est pas achevée une fois que Dieu a eu tout dit, et une fois que Dieu a eu tout fait, au soir du septième jour, et qu'il a terminé en disant « Très bien ». Il y a besoin du septième jour qui correspond à ce silence, ce grand silence du Shabbat, ce grand silence de Dieu. Et c'est ce septième jour que la louange va pouvoir émerger. Mais c'est ce silence pendant lequel celui qui a fait est invité à se défaire de son faire. Se défaire de son propre faire. Car plus on est engagé dans l'action, fût-elle la plus noble, la plus belle, la plus profonde, la plus généreuse, et plus on est tenté de s'identifier à son faire. Et alors, quand on ne peut plus faire, pour X raisons, quand on se retrouve par l'âge, par une mise à la retraite, quand on se retrouve au chômage ou une maladie, qu'on ne peut plus faire, alors on est tellement désorienté. Tellement désorienté. Et c'est là où le septième jour est précieux, ce jour-là, hein, ce jour silencieux, parce que ce jour silencieux est indispensable pour que la création soit création. Il faut qu'il y ait des gens qui se consacrent au septième jour, qui soient ce septième jour, parce qu'ils sont aussi utiles, sinon plus encore, que les autres. Et on voit bien que, vous voyez, ça correspond à ce silence dont je vous parlais, on rejoint ce silence de l'approche plutôt phénoménologique dans lequel la parole s'accomplit. Pour que la création puisse s'achever, il faut que Dieu se taise, il faut que Dieu ne fasse plus rien, il faut qu'il y ait cet espace entre le créé et le faire. Le créé ne s'identifie pas au faire.
Silence du temps, silence des lieux, silence du cœur. Vous venez de suivre une conférence de l'abbé Jean-Michel Poirier, prêtre du diocèse de Montauban, conférence enregistrée à l'abbaye de Belloc à Urte lors d'une récollection de la pastorale du tourisme et des loisirs le 18 août 2004.